Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nicolas Dose. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Éclairage reçoit aujourd'hui Françoise Thibault. Bonjour Françoise Thibault.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de droit public à l'Université de Poitiers, également membre de l'équipe de recherche du CREMOC, c'est le centre de recherche sur le monde contemporain. À titre d'information, le CREMOC publie une revue trimestrielle disponible sous format papier et électronique. Cette revue analyse les différents aspects des relations internationales sous plusieurs angles juridiques, économiques, politiques ou culturels. Alors j'ai souhaité vous avoir à mes côtés aujourd'hui pour évoquer un ouvrage que vous avez dirigé en collaboration avec Jean Cluzel, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Il s'agit du 22e cahier des sciences morales et politiques. Il est sorti en novembre 2004 aux presses universitaires de France. Son titre exact, c'est donc « Métier militaire et enrôlement du citoyen, les enjeux de la loi ». Je crois qu'on peut ajouter ça dans le titre également.
Oui.
Voilà. Donc référence bien sûr à la loi Richard, d'Alain Richard du 28 octobre 1997, cette loi qui a donné le coup d'envoi au vaste mouvement de professionnalisation des armées, un mouvement qui a été accentué à partir de 2001, à partir de l'abolition finalement du service militaire actif. Alors également avec nous dans ce studio pour évoquer cette problématique, Jacques Barra. Bonjour Jacques Barra.
Bonjour monsieur.
Vous êtes professeur à l'université Panthéon Assas Paris 2 également. Professeur au Collège interarmé de défense, et vous avez été auparavant professeur à l'École supérieure de guerre. Vous avez fait partie de cette équipe qui a métamorphosé, si je puis dire, l'École de guerre en CID. Vous pourrez nous dire un petit peu d'ailleurs comment les choses se sont passées et quelles sont les différences profondes que vous analysez entre l'ancienne et la nouvelle époque. Vous êtes également ancien directeur de l'Institut français de Bucarest et président de l'association culturelle France-Roumanie depuis 1998. Première question, Françoise Thibault, racontez-nous l'histoire de ce livre. À l'origine, c'est une commande de l'Académie des sciences morales et politiques. Un gros travail quand même, 22 volumes, un historien, 2 mètres de conférences pour arriver à ce résultat. Comment est-ce qu'est né le projet ?
Mais le projet est né à l'initiative de l'Académie des sciences morales et politiques, puisque l'Académie a décidé, il y a maintenant 3 ans, de brosser un vaste tableau de la société française à l'entrée du XXIe siècle. Et il était normal, sinon indispensable, que les militaires, qui font partie de notre société depuis toujours, aient une part de réflexion. Et comme j'ai été également professeur à l'École supérieure de guerre, que je fréquente les milieux de défense depuis quelque temps, Jean Cluzel s'est tourné vers moi et cette collection qui est dirigée par Roland Drago a inclus une réflexion que j'ai proposée sur la suspension du service militaire actif et le cheminement assez rapide de l'armée française vers une professionnalisation.
Vous aviez le sentiment qu'il y avait un vide de commentaires et d'analyses sur ce sujet ?
Ah oui,
véritablement,
très important.
Parce que j'imagine que vous avez fait une recherche bibliographique importante et vous n'avez pas trouvé de réponse aux questions et aux grandes problématiques qui se posaient.
Nous avons trouvé des réponses brouillonnes, contradictoires et compliquées. Ça a été toute une aventure pour monter cette recherche. D'abord, nous avons essayé de monter, je ne sais pas s'il est correct de le dire, mais nous avons d'abord essayé de monter une équipe de recherche et d'écriture avec les militaires. Et ils se sont défilés.
C'est la grande muette, l'armée, oui, à tout point de vue.
Prudemment. Alors, avec Jean Cluzel, nous nous sommes orientés vers une recherche plus universitaire, je dirais. Mais en fait, il y a assez peu de gens qui s'intéressent de manière objective et scientifique au milieu militaire. Et quand nous avons, une fois l'équipe montée, commencé à faire une vraie recherche sur papier et sur source, nous nous sommes aperçus qu'il y avait très peu de documents neutres. Mmh. On est d'emblée militariste ou on est contre. Mais le commentaire à la française, vraiment objectif et scientifique, il y en a très très peu. Ce qui prouve que la relation des Français avec leur propre armée est une relation très passionnelle, très complexe, je dirais même qui relève souvent de la psychanalyse ou de la psychologie.
Voilà.
Ah oui ? Oui, oui. L'armée, ça peut être à la fois le père et la mère, mais ça peut être également l'objet absolument honni pour des raisons très viscérales.
On va en reparler, bien évidemment. Jacques Barat, vous qui connaissez bien ce monde-là, est-ce que vous avez aussi ce sentiment ? Vous avez donc découvert cet ouvrage. Est-ce que vous avez constaté qu'il répondait enfin à des problématiques sur lesquelles personne ne s'était jamais prononcé ?
Oui, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec ma collègue, mais enfin, je suis souvent d'accord avec elle, pour ne pas dire toujours. Ce matin, j'étais en voiture, j'arrive de ma province et j'ai au téléphone un de mes amis, un individu cultivé. Je lui dis, oh, tu sais, je suis obligé d'arriver à Paris plus tôt parce que je vais à l'Institut de France pour parler de la loi Richard. Il me dit, mais Marthe Richard ? Il dit, non, pas tout à fait. Et c'est vous dire, parce que je voudrais apporter un peu d'anarchie, n'est-ce pas, dans notre émission, c'est vous dire à quel point, chez les gens que je considère comme très cultivés, il y a ignorance du fait que, bon, tout le monde sait qu'on a supprimé, entre guillemets, le service militaire, mais ça ne va pas plus loin, même chez des gens qui, je dirais, normalement, devraient être au courant du fait que c'est la conscription, c'est momentané. Ignorance totale. Et c'est la première fois que l'État français, qui est stalinien, qui est collectiviste, est capable de se réformer, il le fait tout seul, personne n'en parle, alors que dès que chez nous, dans cette armée rouge qui est le ministère de l'Éducation nationale, la première firme du monde, vous le dites d'ailleurs, dès qu'on veut supprimer la qualification de 3 surveillants ou de 4 sous-enseignants quelconques, il y a immédiatement des milliers, sinon des millions de gens dans la rue. Oui. Donc, c'est la première fois que l'État stalinien jacobin se réforme, il le fait tout seul, il le fait bien et mal, bon, nous en discuterons après, mais personne ne s'y intéresse et il n'y a pas eu de consultation et il n'y a pas eu de réaction. J'attends encore des articles au vitriol disant qu'on a supprimé le service militaire ou que cette professionnalisation de l'armée risque de livrer l'État français à des gardes prétoriennes, à des bandes fascistes armées, etc. Puisque pour certains, vous savez, l'armée, comme le disait ma collègue tout à l'heure, l'armée, c'est tantôt le Léviathan, c'est tantôt le diable et c'est tantôt le bon Dieu. Tout dépend du milieu social dans lequel vous êtes né.
Oui, d'ailleurs, c'est très symptomatique. En ce moment, on fête le bicentenaire de l'Empire. L'image de Bonaparte est une image très ambiguë. De temps en temps, c'est le magnifique chef de guerre.
C'est juste, oui.
Et de temps en temps, c'est l'ogre de Corse qui a envoyé périr dans les neiges de Russie près de 250 000 type pour absolument rien du tout. Donc, y a une permanence de l'ambiguïté de la relation française vis-à-vis de son armée, tout simplement parce que nous avons un immense passé militaire, à la fois très long, très prestigieux et très pitoyable. On a les trois images.
C'est vrai que dans le livre, vous évoquez une réforme ambiguë. Et alors, justement, je voulais que vous éclairiez ce terme ambigu. La réforme est ambiguë. Où est l'ambiguïté exactement ?
Alors, l'ambiguïté, elle est multiple, je dirais. D'abord, comme le disait très bien Jacques Barat, c'est la seule réforme profonde que l'État ait fait sur lui-même depuis au moins 30 ans. Sans tambour ni trompette, contrairement à la musique militaire, sans fanfare. L'indifférence et le silence, un beau soir, notre président a annoncé qu'on allait suspendre la conscription militaire active, c'est-à-dire suspendre le service militaire. Il n'est pas supprimé, la conscription est suspendue.
Suspension, très important.
Ça signifie, entre parenthèses, que ça nous mène vers quoi la suspension ? Ça veut dire qu'il peut y avoir reprise ?
Absolument. En cas de nécessité, en cas d'état d'urgence, dans certains cas précis qui sont d'ailleurs énoncés par la loi elle-même, les jeunes gens peuvent très bien être rappelés sous les drapeaux parce qu'il y a nécessité. On considère qu'actuellement, le service militaire actif n'est plus nécessaire, si vous voulez, dans le contexte social, européen, voire même international. Et le fait militaire s'est tellement technicisé et professionnalisé que le bidas conscrit qui sait à peine tenir un fusil n'a plus aucune utilité. Donc on part sur cette base. Mais s'il y a péril, s'il y a, comme comme l'énonce le fameux article 16 de notre Constitution, dont on ne se sert plus jamais, dont on ne se servira d'ailleurs plus jamais, puisqu'il est complètement dépassé. S'il y a péril pour le territoire ou pour l'unité nationale ou sédition interne...
Cet article où le président prend les pleins pouvoirs...
Oui, voilà. Alors là, c'est un autre sujet de droit constitutionnel, mais je pense que... vous savez, les états d'urgence ont toujours une rame de retard sur la réalité sociale d'un pays. Donc, ils ne vont jamais. Donc, en fait, nous allons d'état d'urgence en état d'urgence.
La conscription est suspendue. Mais alors, selon vous, Jacques Barrat, est-ce que le fameux esprit de Valmy pourrait à nouveau exister en cas, justement, de crise pouvant relever de l'article 16 de la Constitution? Est-ce que cette réforme du métier militaire n'a pas quand même, là on rentre un peu plus dans le vif du sujet, eu des conséquences sur la perception que les Français peuvent avoir du fameux lien armée-nation, qui quand même est un concept pour beaucoup de gens, à mon avis, très vague?
Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, le lien armée-nation.
Je comptais vous poser la question.
Et je vous dis, vous savez que j'ai une chaire de géopolitique des médias, donc je m'intéresse à l'image et à tout ce qui est information, communication. Et je dirais qu'aujourd'hui, je ne sais pas non plus ce que veut dire être militaire. Quand j'avais 20 ans, faire cire, ça voulait dire quelque chose. On savait ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. Et en même temps, on avait un sens, je dirais, relativement bien défini de la carrière qu'on allait embrasser. Aujourd'hui, être militaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, devant un moulin, lever son sabre et faire une charge, d'ailleurs, qui n'a pas véritablement existé, vous savez, puisque nous avons gagné la bataille de Valmy, surtout parce que l'armée ennemie avait le choléra, et pas tellement parce que nos chevaux, qui s'étaient d'ailleurs complètement embourbés, qui avaient perdu leur boulet pour la plupart du temps.
Ça reste dans la psychologie
collective, Valmy,
la levée de masse.
Bon. Mais si vous voulez, aujourd'hui, l'armée du soldat citoyen, l'armée des citoyens, n'est pas utile, comme vient de le dire ma collègue, parce que l'ennemi n'est plus le même. Alors, quel est l'ennemi ? Être militaire aujourd'hui, c'est se battre contre quoi? Si c'est se battre contre des troubles urbains, c'est plutôt le travail de la police, et les militaires n'aiment pas qu'on les transforme en policiers. Ou bien c'est se battre contre un ennemi assez invisible, et où, alors, je dirais, tout ce qui a pu être appris jusqu'alors sert très peu. Quand vous êtes chargé de conserver Mostar ou Sarajevo, vous n'avez pas le même métier que lorsque vous devez charger baïonnette au canon... à côté de la Marne, ou sortir de vos tranchées, vous n'avez pas non plus le même métier que celui qui a pacifié le Rif. Donc, je crois que les militaires aujourd'hui ne savent pas tellement eux-mêmes ce qu'est en train de devenir le métier des armes. Et puis, plus grave encore, le citoyen sait encore moins, d'autant que toutes les raisons qu'il avait de détester son armée sont en train de s'estomper. D'abord parce que la marxisation des esprits, Dieu merci d'ailleurs, a diminué dans notre pays. Et je dirais que nous sommes dans une situation où il y a des inquiétudes chez les militaires et des perplexités de plus en plus nombreuses chez les non-militaires sur ce que sont les militaires et ce qu'ils vont devenir.
Vous restez avec nous, on marque une première pause dans cette émission sur Canal Académie. Je reçois Françoise Thibault, professeur de droit public à l'université de Poitiers, et Jacques Barrat, il est professeur à l'université Panthéon-Assas Paris 2. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
Nous retrouvons Nicolas Dose. Suite d'éclairage avec aujourd'hui Françoise Thibault, qui est mon invité, professeur de droit public à l'université de Poitiers, et qui a dirigé avec Jean Cluzel la rédaction du 22e cahier des sciences morales et politiques, qui a été publié en novembre 2004 au PUF, métier militaire et enrôlement du citoyen, les enjeux de la loi. Pour évoquer ce sujet avec nous également Jacques Barra, il est professeur à l'université Panthéon Assas Paris 2. Alors on parlait du métier militaire et du lien armée-nation. Vous qui avez donc œuvré sur cette problématique, comment vous définiriez ce lien armée-nation qui reste pour beaucoup un concept bien vague?
Alors, je crois que le lien armée-nation, c'est pour un individu, quel qu'il soit, fille ou garçon, avoir conscience d'appartenir à un groupe humain précis et d'aimer ce groupe et d'être éventuellement prêt à le protéger par quelque manière que ce soit. Alors, on peut le protéger par la culture, on peut le protéger par le commerce, on peut le protéger par une activité industrielle d'entrepreneur intelligente et qui rapporte beaucoup d'argent à Bercy. Mais on peut le protéger également en le défendant s'il y a péril. Je crois que l'armée-nation, c'est avoir, par éducation, par culture, depuis l'enfance, la conscience d'appartenir à un groupe.
Et vous n'avez pas du tout prononcé le mot de citoyen, citoyenneté, c'est volontaire?
Mais on est citoyen, je dirais, par inadvertance. On est dans un certain endroit, donc on est inclus, dès qu'on est dans le ventre de sa mère, dans un certain système juridique et national, sans le savoir. Bon, donc, à partir de là, il faut que l'éducation, que la famille, que tout le monde fasse son boulot pour qu'on ait conscience de ce groupe. Alors, c'est peut-être ce qui n'est pas fait actuellement ou qui est fait très imparfaitement dans notre société française actuelle. On se plaint toujours des mauvais jeunes, des adolescents perdus, etc. Mais si tout le monde fait correctement son boulot, sans être spécialement patriote d'ailleurs, mais être le national d'un État est un fait juridique d'abord, qui ne nous appartient pas, on est inclus dans un système de droit dès le départ, et puis ensuite c'est une inclusion qui vient du milieu social global dont la défense fait partie, ce n'est qu'un élément, c'est un élément très particulier où notre passé militaire pèse beaucoup. Mais c'est particulier à la France, ça. J'aimerais, pour terminer ce chapitre, souligner que la France est le seul État européen où l'on s'interroge autant sur le monde militaire.
À quel niveau on s'interroge ?
À tous les niveaux. D'abord, c'est le seul pays européen où les militaires s'interrogent autant sur eux-mêmes. Comme l'a dit très très bien mon honorable collègue, le militaire français a des états d'âme que les autres militaires, notamment les Britanniques, les Allemands, les Nordiques, les Finlandais, n'ont pas.
Les gendarmes sont allés jusqu'à manifester, ce qui était quand même absolument extraordinaire.
C'est extraordinaire, oui.
Événement historique.
Et c'est probablement le seul pays européen où le civil ordinaire s'interroge également sur le mystère militaire de sa société. Les militaires restent un mystère pour le français.
Justement, Jacques Barra, sur cette analyse que faisait à l'instant Françoise Thibault, cette réforme du service national qui maintenant est vraiment installée, puisque
oui,
la conscription, même si elle est suspendue, dans l'état d'esprit des gens, elle n'existe plus malgré tout. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette réforme qui allait assez vite, puisque ça date de 97, on est en 2004, pour une grande réforme d'État, c'est quand même assez rapide. Quelles sont les conséquences que vous voyez sur la société civile et sur cette perception que les Français peuvent avoir de l'armée, comment les choses ont évolué?
Bien, la première conséquence, c'est que dans les déjeuners ou dîners à la campagne, je vis en province, on pourra plus raconter des histoires de services militaires.
Elles sont souvent croustillantes.
Et elles sont croustillantes et ça marque énormément les gens. Moi, je vois tous les gens de mon âge en Bourgogne, dès que je leur parle, me parlent de leur service militaire. Donc il y aura, je dis, non seulement des sujets de conversation en moins, mais là je plaisante, mais je dirais que l'individu ne sera plus marqué par le fait que dans les villages, jadis, quand on était réformé, c'était infamant.
Absolument.
Et ça, il faut se rappeler. Ensuite...
À mon époque, je connais beaucoup de gens qui se sont vantés de s'être fait réformer, par contre. Donc les choses déjà avaient évolué, j'ai que 35 ans.
Voilà, moi je veux dire, j'ai presque le double de votre âge, et de mon temps, être réformé, c'était infamant. Ça voulait dire qu'on avait des problèmes graves. Des problèmes physiques. Bon, vous voyez ce que je veux dire. La deuxième idée, c'est que le service militaire, jusqu'à maintenant, était le seul endroit où des Bretons rencontraient des Alsaciens à l'intérieur d'une société où on voyageait relativement peu. Moi, quand j'étais petit garçon, il y avait chez nous des domestiques, dont des femmes, qui, nous habitions à 8 km de la mer, n'avaient jamais vu la mer.
Oui.
Et donc, il faut comprendre que ma génération, j'ai 62 ans, a été celle où le melting pot, c'est exprès que j'utilise un terme britannique, le melting pot, c'était l'armée. Et l'armée était vue comme un melting pot, en même temps que le paysan était content d'aller au service militaire. N'oubliez pas que jusqu'en 1914, on est paysan. Qu'est-ce qu'on fait au service militaire ? Bon, on fait ce qu'on fait à la ferme. En plus, on a des officiers qui sont souvent des aristocrates. Faire les écuries, c'est pas gênant pour quelqu'un qui traite les vaches. Et enfin, on a de la viande et du vin. Et les conditions de logement par rapport à la ferme sont le Hilton par rapport à la cahute.
Il y avait même du tabac à une époque.
En même temps, faire l'armée, comme on le disait, ça voulait dire entrer à l'intérieur d'une transversale sociale qui pouvait vous mener à valoriser votre carrière. Encore une fois, en 68, qui est dans la rue, d'un côté des fils de ministres du général de Gaulle sont des bourgeois et qui crient CRSSS, ou à des gendarmes mobiles qui, eux, sont gendarmes mobiles ou CRS parce que leurs parents sont bergers en Lozère.
Donc finalement...
L'armée, c'est le melting pot et en même temps, oui, c'est un ascenseur social.
L'amalgame.
Oui. Aujourd'hui, tout le monde dit il n'y a plus de repères, les jeunes ne savent plus où ils sont. Ben, c'est vrai que j'aimerais bien que les jeunes beurs puissent prendre contact avec autre chose que leur petit compagnon de banlieue. Ils comprendraient peut-être qu'il y a d'autres mondes, de même que le Français qui devient bêtement raciste parce qu'on a brûlé la voiture de son papa, pourrait comprendre, en étant à 18 ans avec des jeunes de banlieue, pourquoi ils ont les réactions de refus d'une certaine forme d'intégration ou d'assimilation. Alors ce melting pot, et c'est exprès encore une fois que j'utilise ce terme anglais, se creuser n'existe plus. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Bah, ça ne peut pas arranger nos problèmes d'assimilation ou d'intégration. Mmh. Certainement pas. Mmh. Est-ce que ça aurait pu les résoudre en maintenant une conscription qu'on a décidé de suspendre ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais c'est un élément de moins pour le brassage social.
Oui.
L'armée avait une mission sociale, visiblement, qui n'a pas été comblée.
Je le dis d'ailleurs dans ma postface, je le signale, la conscription sous la forme où elle était ne pouvait plus durer. Je pense que dans l'état où elle était...
La coopération.
D'abord, c'était devenue une conscription pleine de trous, avec des inégalités flagrantes. Elle était obsolète, démodée et mal vue, je dirais. Elle ne correspondait plus à la société. Mais le problème, je pense, c'est qu'on n'a rien mis à la place.
JAPD, les journées d'appel
de
préparation à la défense. Bon, je sais pas, ça vous fait sourire déjà.
Oui, moi, mon fils, quand il est revenu de cette fameuse journée où on avait oublié de le convoquer...
Donc il a été bon citoyen, il s'y est rendu chef.
Il y a eu un certain nombre de malfaçons dans ce domaine. Bon, quand il est rentré, il m'a dit « Ah, c'était une journée perdue, mais la bouffe était bonne. » Voilà, point. Donc, c'est un peu dommage dans la mesure où l'éducation nationale n'est pas préparée du tout à pratiquer l'amalgame, le melting pot, le creuset social. Hein, les enseignants ne sont pas du tout préparés à ça. Eux, ils ont un métier technique et ils restent dans leur métier technique. Et la portée sociale de leur enseignement ne leur est pas signifiée de façon suffisante. Donc, qui peut préparer les enfants à être des citoyens corrects, c'est leur famille et l'éducation. Dans la mesure où la famille n'est pas vraiment citoyenne, parce qu'elle est absente ou parce qu'elle ne fait pas partie de la culture française basique ou parce qu'elle bouge beaucoup ou elle n'en a pas les moyens, ni la patience, ni... Bon. Et où l'éducation nationale ne fait pas non plus ce boulot...
Qui se pose beaucoup de questions aujourd'hui.
Bien,
hein.
La façon de rattraper le train, c'était ce passage vers la collectivité, vers l'obligation de se rendre compte qu'on appartient à un groupe social très diversifié, où éventuellement on perd son temps, mais où éventuellement aussi, moi j'ai beaucoup de vieux camarades qui ont profité du service militaire, on pouvait apprendre un métier, on pouvait apprendre à se situer dans la société. Et ça, il n'y a rien à la place, il n'y a plus rien. Mmh.
La c'est mission pas... éducatrice de l'armée était essentielle et elle n'a pas été remplacée, Jacques Barrat.
Oui, l'armée permettait la spatialisation du pays, de la nation, de la patrie, horizontalement. L'armée aussi, c'était l'histoire, c'était la tradition, le drapeau. On donnait l'impression à des jeunes qu'ils étaient les descendants, je dirais, d'une filière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est grave chez nos étudiants ? C'est qu'ils sortent de l'enseignement secondaire sans être des citoyens, sans savoir grand-chose. Ils ne connaissent même plus, hélas, ce que leurs grands-parents savaient en passant le certificat d'études. Hein, et là, je ne hurle pas avec les loups. Mais surtout, on a des gens déspatialisés et déchronologisés, si vous me permettez de faire ce barbarisme. Moi, pour mes étudiants de 20 ans, à Paris 2, De Gaulle, l'archéologie, Vercingétorix, c'est la même chose.
Vous allez un peu fort.
Non,
je jure que c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on a arrêté d'apprendre l'histoire pour des raisons politiques. Hein. On a arrêté d'apprendre l'histoire avec une chronologie et donc on ne sait pas si Louis VI le Gros est postérieur à Louis XIII. Nous savions. Et l'armée nous apportait en même temps l'amour, si vous voulez, de la filière qui avait fait de nous les descendants d'une tradition. Les traditions ont disparu. Rappelez-vous Confucius, lorsque tu veux faire disparaître un pays, commence par faire disparaître ses traditions. Eh bien, moi qui enseignais en robe quand j'avais 35 ans, qui aujourd'hui continue de la mettre parce que je suis un conservateur et qui suis apprécié de mes étudiants pour ça, parce que je leur montre justement que moi je sais des choses qu'eux ne savent pas et que je vais leur apprendre des choses. C'est pour ça que je peux leur donner mon numéro de téléphone. J'établis un lien de confiance. L'armée établissait un lien de confiance entre l'individu et son passé collectif. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien de confiance, plus de tradition. Eh bien, un pays qui perd ses traditions, un pays qui n'est plus capable de faire des passes d'armes, eh bien, c'est un pays qui se méprise et s'en va à volo. Non, nous ne savons plus ce que nous sommes spatialement, d'ailleurs. Qu'est-ce que nous allons devenir à l'intérieur du conglomérat européen à 25, puis bientôt à 55, hein, si ça continue, et nous serons aux frontières de la Syrie et de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que nous sommes en tant que descendants de quelque chose ? Non. Et enfin, morale, éthique, on ne sait plus ce que ça veut dire, parce que l'instituteur a disparu. Alors, je ne suis pas en train de rêver à la Troisième République où l'armée était la grande muette, mais dans une certaine mesure, aujourd'hui, il n'y a plus d'armée, et comme il n'y a plus d'instituteur au sens où nous l'entendions, nous, jadis, qui va fabriquer le citoyen européen ?
On marque une deuxième pause dans cette émission. Aujourd'hui, nous évoquons le métier militaire et enrôlement du citoyen. C'est le titre des 22e cahiers de l'Académie des sciences morales et politiques. Restez avec nous.
Vous écoutez Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous. Et écoutez. Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio Canal Académie. Nous retrouvons Nicolas Dose.
Retour de cette émission, troisième partie, éclairage reçoit aujourd'hui Françoise Thibault, professeur de droit public à l'université de Poitiers, également Jacques Barra, il est professeur à l'université Panthéon à Assas Paris 2. Françoise Thibault, vous avez donc, aux côtés de Jean Cluzel, dirigé le cahier numéro 22 des sciences morales et politiques qui a été publié en novembre dernier, en novembre 2004, aux presses universitaires de France, sur les métiers militaires et enrôlement du citoyen. On a commencé à évoquer les différentes problématiques qu'on trouve dans cet ouvrage. Françoise Thibault, comment est-ce que le travail que vous avez effectué a été accueilli au ministère de la Défense ?
Très bien.
Très bien.
Oui, mais nous nous connaissons depuis un certain temps, donc je crois que la réception de l'ouvrage correspond à une continuation de relations amicales et pacifiques. À la Défense, enfin c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais dans les milieux de Défense, les gens m'aiment bien parce que, si vous voulez, je leur apporte un œil extérieur. Souvent, mes collègues universitaires qui collaborent à la Défense ont un peu trop tendance à s'inclure dans la Défense. C'est un réflexe très masculin, d'ailleurs. Tandis que moi, j'ai nulle intention d'avoir un képi, de défiler, d'avoir des décorations. Je regarde tout ça en sociologue, finalement, en observateur, tout comme je m'assois à la terrasse d'un café pour voir les gens passer et regarder la diversité du monde qui m'intéresse. Et je regarde les militaires un peu comme ça. Ils participent à la diversité du monde et ils ont à la fois des particularités, mais de grandes ressemblances que j'essaye de dire aux militaires à travers ce livre, qui sont des citoyens comme les autres, finalement.
Alors justement, on évoque la réforme du service national qui est née de la loi d'Alain Richard, le ministre de la Défense de l'époque, c'était en octobre 1997. Il y a un document confidentiel qui émanait de la DICOD, c'est l'ancien CIRPA, qui a été publié par Libération en février 2002. Il parlait d'une crise morale des militaires professionnels à l'époque, d'une crise de confiance avec la haute hiérarchie, alimentée de pas mal de revendications financières. Alors après avoir évoqué la conséquence de cette réforme pour les anciens, appelés du contingent, quelles sont les analyses et les commentaires que vous avez pu faire sur la société militaire, qui est aussi quand même directement concernée ?
Oui. Il y a un problème d'avenir d'abord des officiers, qui est très, très important. Il y a le problème du vieillissement des cadres, qui correspond d'ailleurs à un vieillissement général global de la société, non seulement française mais européenne. Les Allemands sont un peu dans le même cas que nous, un peu beaucoup même. Il y a un problème d'utilisation du corps militaire en lui-même, qui est assez important. Et puis, est-ce que la formation militaire correspond toujours aux besoins sociaux et techniques de la Défense ? Il y a une disjonction, si vous voulez, qui pose problème. C'est que il y a, vu la technicisation de plus en plus grande du combat armé, il y a une disjonction entre le positionnement social du militaire et le métier technique militaire, qui tendent à se séparer l'un de l'autre. Donc, quand le militaire n'est pas en action, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, les cocottes en papier dans les bureaux, qui ont fait la joie des films en noir et blanc, c'est le jeu informatique en attendant l'heure de quitter l'uniforme pour retourner dans la rue. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, ça, en ayant de temps en temps des fonctions dans les milieux de défense. Ça pose problème, réellement.
Jacques Barra, quel est le résultat, effectivement, d'une armée professionnelle ? Comment vous l'observez ?
Mais écoutez, ce matin, il y a un sous-officier qui avait menacé de faire sauter un dépôt d'explosifs qui s'est rendu au GIGN. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus besoin de sous-officiers aujourd'hui pour s'occuper de la formation de conscrits.
Oui.
Donc il y a tout un pan du métier militaire qui est celui de la formation militaire du conscrit qui est en train de disparaître. Ensuite, comme le disait très bien ma collègue, il est évident qu'on a aujourd'hui deux types d'officiers à former. On a ceux qui sont pilotes, hein, d'avion-réaction, on a ceux qui sont chefs de char et ce sont les techniciens, de même ceux qui sont sur un navire à regarder un radar ou à écouter un sonar 12 heures sur 24. Et puis, on a besoin d'officiers de plus en plus humanistes aussi, parce qu'ils auront à tenir, je dirais, en sécurité une population, comme ça vient de se passer récemment en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait face à une foule qui a envie de tuer une autre foule? Qu'est-ce qu'on fait à Sarajevo? Qu'est-ce qu'on fait à Mostar? Qu'est-ce qu'on fait à Beyrouth? Qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire?
On va avoir besoin.
Et donc, on va avoir besoin de plus en plus, de nouveau, d'officiers supérieurs qui seront plus, enfin, je caricature, des philosophes que des techniciens militaires. Il y aura donc, si vous voulez, une double formation. Et j'ai eu l'honneur, parce que j'ai enseigné, comme vous, cher collègue, comme professeur à l'école supérieure de guerre, et puis j'ai fait partie de l'équipe qui, avec l'amiral Merlot, a essayé de, et ça nous amusait, civiliser, entre guillemets, les militaires pour en faire le CID, en même temps qu'on faisait venir de plus
collège
en plus
collège interarmée de défense.
Oui, oui, de stagiaires étrangers, tout à fait. Qu'est-ce que nous voulions faire? Un, civiliser les militaires, c'est-à-dire apporter, nous, homme, pardon, cher ami, cet œil différent de femme dont vous parliez tout à l'heure, mais vous avez tout à fait raison. Nous, les civils, qui ne voulions pas, parce qu'on avait déjà de képi ou de décoration, nous pouvions dire mon colonel, mon général, je crois que ça, c'est le milieu militaire qui veut que vous le pensiez, parce que nous, de même niveau intellectuel que vous, nous sommes amenés à penser exactement le contraire. Les militaires avaient besoin qu'on les mette, si vous voulez, en contact avec des civils de même niveau qu'eux. Et puis, ils avaient besoin d'apprendre à ne plus avoir peur des journalistes. Je me rappelle, j'ai fait venir beaucoup de mes collègues de l'Institut français de presse et beaucoup de journalistes, parce que pour les militaires, le journaliste, c'était l'ennemi. Oui. C'était le type qui vous empêchait de faire votre boulot à Sarajevo. Le premier général qui a mis la presse de son côté, c'est Morillon. En montant sur un char.
Absolument.
Et ça, c'est fondamental. Et maintenant, non seulement les militaires n'ont plus peur des journalistes, mais ils les mettent dans leur poche. Quand Alexandre Adler va faire des cours au Collège interarmé de défense, c'est pas du tout pour conforter, je dirais, les militaires dans leurs idées, je dirais, les plus étroites, loin de là. Et maintenant, les militaires apprennent à faire la guerre médiatique. Car aujourd'hui, n'est-ce pas, rappelez-vous Hérodote, hein, la géographie c'est l'art de faire la guerre, je dirais communiquer c'est l'art de faire la guerre aujourd'hui. Et vous avez chez les militaires des gens qui sont maintenant tout à fait au fait des techniques d'information, de désinformation, de manipulation.
Ça signifie donc que la professionnalisation a été en partie digérée, qu'on s'est recruté les gens qu'il faut et qu'on sait les former maintenant?
Oui.
Comptablement?
Oui, objectivement. Mais en même temps, ceux qu'on met au Collège interarmé de défense ne sont plus sûrs, comme leurs ancêtres de l'école supérieure de guerre, étant brevetés de commander. Oui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chefs d'escadron qui me disent « moi, ce que je veux, c'est commander un jour un régiment. Ben, j'ai une chance sur quatre, peut-être, seulement de le faire. » Et il y a donc là une inquiétude. Nous en avons fait part, d'ailleurs, au chef de cabinet vendredi dernier. Nous en avons fait part, vous vous rappelez, au chef de cabinet de Michel Civil, de Michel Lalliot-Marie, qui est un ancien militaire d'ailleurs, et qui en a pris bonne note. Parce que je crois qu'il faut informer les militaires que le Collège interarmé de défense, pour les officiers supérieurs, c'est soit une formation humaniste pour ceux qui sont techniciens, soit des approches plus techniciennes pour ceux qui sont plus humanistes, mais, ou généralistes, hein, parce que je ne veux pas opposer les deux, mais il faut être les deux pour être un bon militaire. Mais surtout, il faut leur dire, votre carrière risque d'être peut-être plus courte qu'auparavant. Dans ce cas-là, vous avez tout en main pour très facilement vous réinjecter, vous recycler à l'intérieur d'une vie civile qui vous accueillera autrement que comme des traîneurs de sabre.
Oui. D'ailleurs, j'aimerais signaler que le service militaire actif repose sur un volontariat. Hein, et paradoxalement, si la conscription est suspendue, le service militaire actif, lui, n'a jamais été aussi universel, puisqu'il s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles.
Donc, il y a une féminisation, oui, de l'armée.
Tous les citoyens sont potentiellement appelables à servir militairement. C'est là, probablement la plus large universalisation du service militaire que nous ayons jamais eue.
François Thibault, lors du travail que vous avez effectué, est-ce que vous avez observé cette crise de confiance, cette crise de morale dont on parle également, des revendications sur une possible représentation syndicale professionnelle chez les militaires qui n'existe pas?
C'est délicat, votre question. Elle est extrêmement complexe. Je pense que les militaires s'interrogent sur eux-mêmes, mais tout en sachant que la représentation de leurs intérêts particuliers n'est pas opportune et n'est probablement pas faisable. Comme je l'ai dit l'année dernière, lorsque j'ai participé à un grand colloque à l'Amphifoche, à l'école militaire, le militaire ne peut pas être à la fois partisan, c'est-à-dire représenter la parcellisation de l'opinion de la nation, et être un serviteur de la nation unique, parce que les deux sont antinomiques. Il y a des pays où ça existe, mais à ce moment-là, on est en porte-à-faux philosophique permanent et même social permanent. Mais en France, on part sous l'idée, c'est le principe de notre contrat social, que la nation est une, que le peuple est un, et que le représentant du peuple est unique également, donc que son défenseur est unique. Donc c'est une des raisons majeures pour lesquelles le défenseur de la nation ne peut pas représenter des intérêts particuliers. Mmh. Et ça, c'est une notion qui est très très forte dans le corps social français.
En tout cas, la réponse était parfaitement précise, Jacques Barra.
Oui, il n'y a pas de corporatisme à l'intérieur de l'esprit d'un vrai militaire. Et moi, je voudrais dire du bien de ces gens. Non, mais comme dans toutes les sociétés, il n'y a pas... Écoutez, prenez toutes les églises, tous les corps constitués, il y a toujours des gens qui échappent.
Oui, il y a toujours les purs et durs et les autres. Bon. Oui.
Mais je dirais qu'être militaire, c'est d'abord avoir un grand sens de l'abnégation. Et être militaire, ça veut dire servir. Eh bien, je vous jure qu'aujourd'hui, la professionnalisation de l'armée n'a pas changé ses vertus essentielles. Nous avons, chez nos amis militaires, oui, des gens à côté de nous, en face de nous, qui ont un sens du service public, un sens de l'autre, un humanisme, une charité que j'aimerais bien retrouver, oui, moi, dans l'éducation nationale.
Moi, je suis...
Et moi, je dois vous dire que je suis plus heureux de vivre avec des militaires qu'avec beaucoup de nos collègues de l'enseignement secondaire, par exemple, qui ne pensent qu'à leur bulletin de salaire ou à la manière d'éliminer aux vacances ou la manière de ne pas faire passer le bac ou de ne pas avoir à noter des élèves parce que c'est fatigant et que ça devient dangereux. Donc, je dirais que moi, je suis très à l'aise dans le milieu militaire et que le milieu de l'éducation nationale m'a considérablement déçu à ce niveau-là. Servir, c'est encore vrai aujourd'hui quand on porte l'uniforme.
Moi,
à de rares exceptions près. Eh bien ça, écoutez, c'est magnifique. Vous en êtes d'accord?
Très vite, François Stibault, allez-y.
Oui, moi je reste impressionnée. Je n'enseigne plus à l'école supérieure de guerre, mais je vais régulièrement y faire des évaluations des enseignements juridiques. Et je reste, même au fil des ans, ça fait maintenant, je ne sais pas, au moins 15 ans que je les pratique, ces garçons, je reste très impressionnée par leur droiture morale. Et ça, c'est très très beau, ça me rassure. À chaque fois que je sors de Coïquidan, je suis rassurée.
Ça ne tire pas dans le dos.
Métier militaire et enrôlement du citoyen, les enjeux de la loi, c'est le titre des 22e cahiers de l'Académie des sciences morales et politiques que nous évoquons aujourd'hui avec François Stibault, qui a dirigé l'ouvrage aux côtés de Jean Cluzel, et également Jacques Barra, professeur à l'université Panthéon Assas Paris 2. On marque une dernière pause dans cette émission sur Canal Académie. On se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
Nous retrouvons Nicolas Dose.
Suite et fin de cette émission consacrée au métier militaire aujourd'hui, quelques années après la réforme d'Alain Richard, le ministre de la Défense qui en octobre 1997 a signé cette loi qui allait engager ce vaste mouvement de professionnalisation des armées. Pour en parler, je suis avec Françoise Thibault, professeur de droit à l'université de Poitiers, et également Jacques Barra, professeur à l'université Panthéon-Assas Paris 2. J'ai envie de vous poser... Avant de nous quitter, Françoise Thibault, cette question qui vient à la fin de votre ouvrage, cette loi Richard, rupture ou continuité, alors quelle réponse vous pourriez nous apporter ?
Oh, elle n'est qu'une rupture apparente, elle est un épisode parmi d'autres de l'évolution de la défense d'un pays, d'une société. Beaucoup de gens, peu ou mal informés, s'imaginent que la conscription militaire large... Telle qu'on l'a pratiquée à partir de la Troisième République, a toujours existé. C'est complètement faux. Il y a eu des périodes extrêmement variables. En fait, la vision très militarisée de la société française s'installe avec les guerres d'Empire. Nous fêtons cette année le bicentenaire de l'Empire, qui a été précédé par l'enrôlement des citoyens par la Révolution française pour patrie en danger. Et du fait, si vous voulez, de la Révolution française, on a massifié la participation à la politique. Hein, le citoyen à la française naît à ce moment-là. Et le défenseur de la France naît à ce moment-là et est vraiment installé avec les guerres d'Empire.
Mais la conscription en elle-même, elle avait moins de 100 ans, finalement.
Elle a moins de 100 ans, absolument.
Donc c'était un phénomène relativement neuf.
C'est un phénomène qui est une histoire du XXe siècle, de la fin du XIXe et du XXe siècle, je dirais, pour deux raisons. D'une part, préparer le pays à reconquérir les territoires perdus en 1870, et toute la politique de défense de 1871 à la guerre de 14 est orientée par là, donc il fallait préparer les jeunes hommes à la reconquête, et puis d'autre part les conquêtes coloniales également, qui demandaient énormément de personnel, ne serait-ce que par sa dispersion géographique, il fallait beaucoup de monde. Hein. Donc en fait, ça correspond à une période historique. Est-ce que historiquement on a besoin d'autant de monde ? Est-ce que historiquement on a besoin d'avoir une armée de masse ? Actuellement, je ne pense pas.
Donc il fallait la faire, cette réforme ?
Il fallait la faire, elle n'a que trop tardé, mais elle a été faite assez intelligemment, je dirais. Et puis à une bonne période, vous avez signalé que la loi Richard porte le nom du ministre du moment, qui était un ministre socialiste, mais en fait cette réforme a également été préparée par le ministère précédent, et il y a eu un accord de pensée très très large, très très vaste sur l'adoption de cette loi.
Même question, Jacques Barra, rupture ou continuité à l'issue de cette loi qui date de 97 ?
Non, moi je vais tout à fait dans le sens de ma collègue qui a très bien résumé cette étude. Je me pose même quelques questions. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que la patrie lorsqu'on fait l'Europe ? Alors, la nation, c'est bien, mais est-ce qu'il y a-t-il une nation européenne ? Une Europe à 25 ? Est-ce qu'un militaire français va mettre ses gants blancs, non plus pour arrêter les Allemands sur un pont de la Loire et accepter de mourir ? Est-ce qu'un Saint-Syrien acceptera de mourir pour la Lituanie ou pour la frontière entre la Syrie et la Turquie, si un jour la Turquie fait partie de l'Europe ? Il y a, c'est le géographe qui parle. Première idée, la géographie réglera nos comportements moraux, mais à partir de quel type de frontières ? Car il est dans l'esprit de l'homme de se fabriquer des frontières et des limites spatiales. Nous parlons horizontal. Parlons maintenant verticalement. Je vous parlais d'histoire et de tradition. La tradition est plus facile à maintenir à l'intérieur d'un petit groupe que dans une masse. Mais quand les masses sont coupées de la tradition, les traditions militaires vont devenir totalement étrangères, je dirais, à la population française. Et pour moi, dans l'Europe, être français, ça voudra dire parler français. C'est pour ça que je m'intéresse d'ailleurs beaucoup au problème de francophonie. Et au moment où, justement, notre langue est en péril au niveau mondial, qu'est-ce que voudra dire être soi-même dans une sorte de conglomérat et une Europe, je dirais, un peu purée de marron, Macron, où on ne saura plus culturellement, sociologiquement, spatialement et historiquement, non point à quel sein se vouer, mais à quelle borne se rattacher. Et une armée sans frontières, une armée sans espace, une armée sans patrie, une armée sans nation, qu'est-ce que ça devient ? Je crois que ce sont là des interrogations qui mériteraient d'être un petit peu étudiées. Je crois que c'est ce que fera ma collègue dans le prochain ouvrage qu'elle fera en tant que...
En fait, il faut être les deux à la fois. C'est un exercice difficile. Il faut être à la fois le national de sa patrie et le représentant européen.
Voilà.
Et mentalement, je pense que c'est à construire, ça. Il y a deux choses que je voudrais signaler rapidement.
Allez-y.
Pour terminer. La première, c'est que l'armée européenne est à construire. Ne serait-ce que structurellement, les traditions et les mœurs militaires sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Donc, créer des points communs est à faire. Ça sera probablement le travail du prochain demi-siècle, si l'Europe fonctionne.
Et puis, vous y croyez à l'Europe de la défense, quand même ?
Ah oui,
oui.
Elle est déjà commencée.
Oui,
oui.
Enfin, l'Eurocorps n'est qu'un embryon bien maigre aujourd'hui.
Mais si vous me permettez, mentalement, pour avoir une Europe de la défense, il faudrait peut-être avoir une diplomatie européenne. Parce que la guerre n'est pas simplement une manière différente de continuer avant par
d'autres
moyens.
Donc ça veut dire qu'il faut une politique européenne aussi.
Il faudrait une politique européenne.
Mais
ça
vient, nous allons avoir un unique représentant des affaires étrangères si la nouvelle constitution fonctionne. Puis la deuxième chose que j'aimerais faire remarquer, c'est que la Russie moderne est appelée à rentrer dans l'Union européenne. Les Russes sont des Européens. Il n'y a pas plus Européens.
Ce n'est pas ce que disaient les Polonais au XVIIIe siècle.
Je crains qu'on ouvre un débat digne de celui d'Ankara avec un sujet comme celui-là.
Et moi, je pense que la Russie est appelée à moyen ou long terme à devenir européenne. Et l'Europe, elle ira jusqu'à Vladivostok à ce moment-là.
Alors, je vous rassure, il n'y a aucune définition valable qui a été donnée par des géographes de l'Europe. Il n'y en a aucune. L'Atlantique, l'Oural, c'est le général de Gaulle, mais à l'est de l'Oural, quand il y avait 60% de Russes, par exemple, au Kazakhstan, il est évident que l'Europe ne s'arrêtait pas à l'Oural. Donc là, on entre. Alors, nous sommes en train d'élargir le débat.
On va le resserrer pour terminer avec une dernière question. François Thibault, dans votre ouvrage, vous avez élaboré des comparaisons avec d'autres pays, notamment les États-Unis, mais aussi l'Espagne et l'Allemagne. Alors, comment ça se passe ailleurs ? Est-ce qu'on a un train de retard en matière de professionnalisation et d'évolution du métier militaire ? Est-ce qu'on a réussi à prendre le train au bon moment ? Comment vous voyez les choses ?
Je pense que nous avons pris le train au bon moment. Nous avons imité certains de nos voisins qui étaient déjà très professionnalisés, comme les Britanniques, notamment, et qui ont assez bien réussi leur professionnalisation bien avant nous. Et puis, je pense que c'était dans l'ère du temps social et qu'il fallait suivre ce train-là. Le deuxième point, c'est qu'il reste un chantier ouvert qui est important et grave pour l'avenir, c'est la question de la réserve.
Et là, c'est
probablement la principale lacune de la loi Richard, qui reste très, très allusive sur cette question, et les textes qui ont suivi, notamment en 99, n'ont pas répondu vraiment à la question. Et là, nous devons nous inspirer très fortement de nos voisins qui ont déjà abordé cette question, une fois encore les Britanniques, pas tellement les Nord-Américains, parce que la notion de réserve est très différente dans la société américaine, mais les Finlandais, les Nordiques ont une vision de la réserve, et le lien armée-nation peut être très renforcé par l'utilisation des réservistes au service de la jeunesse, je pense.
Jacques Barras, c'est votre avis aussi sur la réserve ?
Ah, tout à fait. D'ailleurs, regardez le lien armée-nation en Suisse. Cette confédération d'États, il y a un lien armée-nation extraordinaire.
Oui, très fort.
Même quand on parle allemand ou français.
Oui.
Et ça, c'est très fort.
C'est très fort.
La réserve, non, il y a un problème. C'est que...
En 99, on disait qu'il fallait 100 000 réservistes en 2002.
Oui, mais
alors, je sais pas si on les avait.
Ou bien vous avez des réservistes de terrain, ou vous avez des réservistes, je dirais, plus généraux. Les réservistes, vus sur un plan beaucoup plus global, ne doivent pas être mis à la porte, à l'âge de la retraite. Il faudra... trouver toute une série, je dirais, de recettes techniques pour que on puisse profiter, qu'on puisse profiter, par exemple, de l'expérience que nous avons des problèmes militaires. Donc, il faut refondre, je dirais, ces corps de réservistes à l'intérieur, dans le cadre d'une optique qui, comme le disait ma collègue, n'est pas du tout celle de l'Amérique du Nord et n'est pas non plus celle d'un monsieur qu'on peut rappeler, comme on a rappelé des gens pour aller dans les Aurès ou en Kabylie dans les années 60-62.
Merci à vous deux en tout cas d'avoir été avec moi pour cette émission. Je recevais Françoise Thibault, professeur de droit public à l'Université de Poitiers, qui a donc dirigé en collaboration avec Jean Cluzel, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, ce 22e cahier des sciences morales et politiques qui est sorti en novembre 2004 au PUF, les presses universitaires de France, intitulé « Métiers militaires et enrôlement du citoyen, les enjeux de la loi ». Également avec nous aujourd'hui, j'avais le plaisir d'avoir Jacques Barra, professeur à l'Université Panthéon Assas Paris 2. Je rappelle que vous êtes aussi professeur au Collège Interarmée de Défense, c'est bien sûr l'ancienne école supérieure de guerre. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission est maintenant terminée.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.